Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des fleurons de la presse internationale que Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Il y a quelques années, le magazine Life écrivait que ce confrère était le plus grand magazine du monde. Rien que ça. On ne compte pas les scoops, les papiers historiques, les clichés inoubliables qui ont fait sa réputation dans plus de 100 pays. Il faudrait des heures pour vous raconter toute la saga de Paris Match, même si tout cela tient, j'en bafouille, vous voyez, de Paris Match, même si tout ça tient en deux adjectifs, poignant et glamour. Afin de nous conduire à l'essentiel, j'ai la joie de recevoir l'actuel directeur de la rédaction, Olivier Royan. Une des grandes plumes des années Théron, Nicolas de Rabaudy, et peut-être le plus célèbre photographe de presse, Beno Graziani, qui est avec nous dans ce studio.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Philippe sur la façon d'énoncer les dates. Pourquoi certains disent-ils 1800 et d'autres 1800?
Oh, je me sens visé par Philippe et je pense qu'il n'est pas le seul à se poser la question. Pour le moment, retour 66 ans en arrière, en 1949, au tout début de ce que Nicolas de Rabaudy appelle nos fabuleuses années Paris Match.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Si vous avez la curiosité de jeter un œil à la couverture de l'actuel numéro de Paris Match, celui qui est en ce moment dans les kiosques, vous verrez qu'il porte le numéro 3436. On est à la cinquième génération de journalistes. D'ailleurs, un numéro, oui, Olivier Royan me le montre, on y voit le roi et la reine d'Espagne, bien entendu, qui venaient pour le voyage d'État en France et qui, évidemment, ont dû rentrer à Madrid. Le titre, c'est le voyage endeuillé, évidemment. On est tout à fait dans la veine, on est tout à fait dans l'esprit de Paris Match. Je vous disais, cinq générations de journalistes qui, aujourd'hui, peuvent arborer fièrement la carte Paris Match. Ce journal existait, alors il s'appelait Match avant la guerre, c'est un journal sportif qui avait été créé par Léon Belby à la fin des années 1920, et en 38, vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le journal est racheté par Jean Prouveau. Qui est-il, ce Jean Prouveau? C'est un industriel, on va y revenir tout à l'heure. Ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il va se passionner complètement, lui qui vient des Lénières du Nord, il va se passionner pour cette aventure et pour ce titre qu'il va porter au sommet. En 1924, déjà, il s'était intéressé aux entreprises de presse, il avait acheté Paris Midi, 4000 exemplaires, vous voyez, ça restait quand même une chose relativement modeste. En 1930, il achète Paris Soir, alors là on ne plaisante plus. Paris Soir, c'est 70 000 ventes en moyenne. Il recrute déjà un certain nombre d'écrivains, de journalistes dont les noms sont mythiques, évidemment. Colette, Cocteau font partie de l'équipe, Georges Simenon, Joseph Kessel, Antoine de Saint-Exupéry, évidemment, ça fait rêver Olivier Royan, qui ne manque pas de bonnes plumes, mais enfin tout de même, Kessel, Saint-Exupéry, oui, c'est vrai, Kefelec cette semaine, après tout. La devise de éditoriale de ce journal à l'époque, c'est « Où est l'histoire ?» comme le Daily Express à l'époque. À la Libération, on accuse Prouveau d'avoir collaboré. Il est poursuivi pendant un temps, il est obligé de se cacher, etc. Il sera réhabilité, on y reviendra dans un instant. Et c'est en 1949 qu'il lance donc Paris Match. Il y a exactement 66 ans aujourd'hui, puisque le premier numéro est sorti le 25 mars 1949. Évidemment, le titre n'est plus tout à fait le même, ça n'est plus Match, c'est Paris Match. Paris pour faire rêver la planète entière, tout simplement. Il s'agit de faire une sorte de Times à la française. C'est ça l'idée, d'ailleurs, d'avoir quelque chose, non pas de Times, mais de Time à la française, d'avoir un magazine qui soit à la fois photo et grande signature. Il s'agit surtout d'intriguer et de marquer dans le nouveau paysage de cette presse française née littéralement secrétée par la Libération. Vous savez que la presse a été complètement secouée, évidemment. Il a fallu tout changer à la Libération. Et dans ce paysage vient s'installer le petit nouveau Paris Match avec une couverture qui aujourd'hui encore est une énigme, figurez-vous. Puisque vous avez bien sûr le Premier ministre Winston Churchill, lui on le reconnaît facilement. On a également la couverture est partagée en quatre, si vous voulez. Vous avez quatre photographies. Il y en a une qui montre un des avions qui fait le ravitaillement de Berlin. Faut pas oublier qu'on est en plein blocus à l'époque, on est en 49. Au-dessous, donc à gauche, vous avez Churchill. À côté de Churchill, un grand producteur de théâtre de l'époque. Et puis, au-dessus, dans le coin nord-est, si je puis dire, une jeune femme souriante, rayonnante, avec une opulente chevelure brune. Qui est cette jeune femme? Eh bien, personne ne le sait. Alors, une de nos auditrices, parce que j'ai posé hier la question via Internet, et une de nos auditrices, Michel, nous dit « Je pense qu'il s'agit de Jacqueline Boyer ». Mais quand j'ai dit ça, tout le monde a dit « Oh non, non, apparemment, ce n'est pas Jacqueline Boyer ». À la minute où je vous parle, personne n'est capable de dire qui est cette jeune femme. Ce serait très intéressant si c'est votre, je ne sais pas, une personne que vous avez connue, quelqu'un de votre famille, téléphonez-nous, vous avez encore 50 minutes pour nous dire qui est cette personne. Alors, très vite, dès le numéro 2, on va adopter une couverture beaucoup plus parlante, avec un seul portrait en pleine page, en quelque sorte la personnalité de la semaine. Alors, on est dans l'après-guerre, hein, ça peut être Roosevelt, ça peut être Tito, souvent des personnalités encore politiques à l'époque, puisque Match n'a pas encore vraiment pris le virage, j'allais dire, people, pour parler comme aujourd'hui, le virage qui va être celui, on va dire, des années qui suivent. On est dans ce contexte extraordinaire où tout est possible. Nous vous avons parlé depuis quelques semaines maintenant du 60e anniversaire de notre maison, du 60e anniversaire d'Europe 1, et je vous ai dit à quel point, dans le milieu des années 50, j'allais dire tout était facile, façon de parler, mais en tout cas, tout ce qu'on voulait entreprendre était possible. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et on est dans cette atmosphère-là, avec Match, bien entendu. Il n'y a pas encore de télévision en 49. Il y a très peu d'hebdo. Évidemment, le succès est à portée de main. Paris Match s'est installé au départ dans un petit appartement du 51 rue Pierre Charon, dans le 8e arrondissement. On est dans le quartier des Champs-Élysées, tout près d'ailleurs d'ici, tout près d'Europe 1. C'est un 3 pièces au premier étage. La salle de bain sert de laboratoire pour développer les photos. Vous imaginez un peu, il y a quand même un côté assez artisanal dans tout ça. Prouveau s'inquiète car il ne trouve pas encore vraiment la formule qui plaît. Il va falloir plusieurs semaines, bien entendu. Et c'est, évidemment, c'est difficile. Au bout d'un an, les caisses sont littéralement vides. Ça a été très laborieux, témoigne Daniel Philippaki. Pendant des mois, on avait toujours l'impression que le numéro suivant n'allait pas sortir. C'est important de le dire, parce que lorsqu'on crée quelque chose de nouveau, parfois on s'impatiente, on se dit « mais enfin, eh oui, mais... » Toutes les grandes aventures ont commencé par des piétinements, par des difficultés. Un jour, dit Philippaki, ça s'est déclenché. Ce jour-là, c'est le numéro 74. On est la semaine du 19 août 1950. Vous savez que Maurice Herzog et Louis Lachenal, on a eu l'occasion de raconter ça ici même, ont vaincu l'Annapurna. C'est un exploit extraordinaire qui est acheté très cher par Paris Match. 600 000 francs pour obtenir l'exclusivité. Et ça donne la couverture des couvertures. Herzog au sommet de l'Annapurna qui brandit un drapeau français avec un titre extraordinaire, tout simplement « Victoire sur l'Himalaya ». C'est une couverture entre guillemets historique et déjà cela fait 320 000 exemplaires.
De la bande originale du film Mon Oncle de Jacques Tati. Pour agir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la création de Paris Match.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à l'histoire de Paris Match.
Alors évidemment, c'est une ruche, ce nouveau magazine. Il faut imaginer au début des années 1950, le jour du bouclage, Jean Prouveau arrive à 3h du matin. Dans les couloirs du journal, on entend le patron arrive. Il va engager Roger Théron en 1950 comme rédacteur en chef. Il sera ensuite directeur de la rédaction jusqu'en 1968. Et d'ailleurs, Daniel Filipacchi, quand il aura pris la succession, fera revenir Roger Théron en 1976. Il quittera le magazine en 99, remplacé par Alain Genestard, avant donc Olivier Royan, qui est avec nous aujourd'hui. Les hommes de match, ce sont les reporters, évidemment, dont Daniel Filipacchi, dont Beno Graziani, qui est ici. Au début du journal, ils sont une trentaine de photographes et de reporters. Ils forment des duos. Ce sont alors des gens qui sont des baroudeurs, qui sont habitués à voyager, à s'infiltrer. Ils ont été pour certains et même pour beaucoup des résistants. Il y a aussi des écrivains pur sucre, il y a des starlettes, si je puis dire, qui peuvent comme ça pousser certaines portes. Le but est de trouver l'exclusivité, je crois que le terme est là, pour Prouveau. La vocation de match sera dans l'exclusivité. Et tous forment une sorte de famille, si vous voulez, très dévouée à Paris Match. Les anciens rédacteurs en chef du magazine Jean Durieux et Patrick Mahé, dans leur livre « Les dossiers secrets de Paris Match », parlent d'une éblouissante fratrie, une ruche à papillons, c'est joliment dit. Et Beno Graziani, dans une interview, disait « Match, c'est notre club à nous. Il n'y a pas de réunion de rédaction puisqu'on ne se quitte pratiquement jamais. » Il faut imaginer, vous allez nous dire tout à l'heure, Beno Graziani, quelle était l'ambiance. Tout ça, on joue aux cartes, bien entendu, dans l'équipe. Les parties de poker, semble-t-il, avaient lieu au troisième sous-sol dans la salle des photographes, jusqu'au jour où on a carrément enlevé la porte, parce que Roger Théron en avait assez que ça devienne une sorte de tripot, cette cave de Paris Match. Un des personnages, c'est Monsieur Henri, un Hongrois, qui est une espèce de personnage bizarre qui traîne dans les couloirs et qui vend du matériel photographique à des prix défiant toute concurrence. Bref, c'est l'époque dorée. Prouveau souhaite des photographes et des reporters jeunes, riches et beaux, a-t-il dit. Mais il a compris comment on arrive. Je parlais de pousser des portes tout à l'heure. Il a compris, Prouveau, comment on arrive à s'infiltrer, à être là sur l'événement et à obtenir ce que d'autres n'auraient pas. Il y a un garage de luxe quand même, hein, un match, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains roulent carrément en Ferrari, d'autres en Aston Martin, en Triumph pour les plus modestes. On ne doit pas prendre le métro quand on travaille à match. Au pire, on prend le taxi. Une autre marque d'appartenance, c'est l'imperméable. On peut dire que tous ces reporters, tous ces photographes vivent quand même dans une sorte d'opulence. Ça fait partie de l'image de marque de la maison, hein. On déjeune dans les grands restaurants, on passe les nuits dans de grands hôtels, avec évidemment souvent au bras de jeunes et jolies personnes. Ce sont des séducteurs nés, tous ces reporters de match. La notoriété du magazine va devenir telle que dans les années 1960, le nom même de Paris Match devient quasiment générique. C'est-à-dire que c'est l'incarnation même du grand magazine photographique. Prenez Hergé, par exemple, dans les bijoux de la Castafiore. Pour se moquer gentiment ou rendre hommage au personnage de Willy Rizzo, il crée un certain Walter Risotto. On voit très bien qui est là. Et le magazine est devenu, dans les bijoux de la Castafiore, il est devenu Paris Flash. Et vous savez qu'il y a toutes les indiscrétions, mais c'est tout l'esprit de match qu'on trouve dans les bijoux de la Castafiore d'Hergé, entre nous soit dit. C'est-à-dire que les photos sont objectivement indiscrètes. On voit la Castafiore en train de pousser le fauteuil roulant du capitaine Haddock qui, vous savez, s'est cassé une jambe en tombant sur son escalier. Et en même temps, c'est une indiscrétion acceptée. C'est une indiscrétion quasiment de connivence, puisqu'on voit que la Castafiore fait semblant d'être furieuse. En fait, elle est ravie de ce qui lui arrive. Voilà toute l'histoire du Paris Match des années 60, avec des photographes payés à la page, donc une véritable compétition pour obtenir le plus de pages possible, ce qui pousse à rapporter au magazine la meilleure photo possible. Quand je dis rapporter au magazine, ça veut dire que tous ces gens circulent partout, constamment, avec des notes de frais que je vous laisse imaginer. C'est une véritable aubaine, ces notes de frais, puisque pour certains, ça dépasse très largement leur salaire. Il est dit d'ailleurs, et j'ai trouvé ça sous de bonnes sources, n'est-ce pas, que certains vont jusqu'à fabriquer des notes de frais. La salle des photographes est devenue une véritable imprimerie de notes de frais, en vérité. Bref, je ferme cette parenthèse, pas très glorieuse, disons-le. On travaille encore sur de vieilles machines à écrire, quand même, avec des doubles en carbone, faut imaginer tout ça. Et puis les appareils photos, ce que peuvent être les appareils de l'époque des années 50, 60. Certains sont bien plus vieux que ça et continuent à avoir de faire du service. Du reste, ce qui est étonnant, c'est que ces appareils ont immortalisé un certain nombre de moments d'histoire et petit à petit, ils deviennent eux-mêmes de véritables petits réceptacles de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire, à la création de Paris Match.
Alors, évidemment, il faut imaginer tous ces reporters de Paris Match, je vous disais, qui sont là sur le terrain, qui dictent généralement leur article par téléphone, avec toute la difficulté. Et à l'époque, c'est de trouver un bon téléphone et qui fonctionne, bien entendu. On dicte à des sténodactylos qui se trouvent directement au journal, bien entendu. La difficulté la plus particulière, c'est celle qui regarde les reporters de guerre, bien entendu, avec deux victimes qu'on n'a jamais oubliées à Match. C'est Jean-Pierre Pedrazzini, qui pour faire la photo au moment de Budapest, on est en 56, hein, va prendre des risques considérables. On lui tire dessus, il est blessé, le journal va tout mettre en œuvre pour le rapatrier, mais ce ne sera pas possible, il va mourir à l'hôpital. Et puis l'autre victime célèbre, c'est Jean Roy. Là, on est en Égypte et c'est la même année, puisque c'est en plein moment de la crise de Suez, bien entendu, dont nous parlions à propos de Nasser la semaine dernière. Alors, de façon un peu moins risquée, il y a deux QG, si je puis dire, du personnel de Paris Match à Paris. Le plus célèbre, celui qui est évidemment là au pied, c'est pas le plus célèbre, mais le plus évident, c'est la Belle Ferronnière, qui est le bar du coin de la rue, et que nous saluons d'ailleurs. Et alors évidemment, tout le monde est là. Les jours de bouclage, nous dit Beno Graziani, on arrive le matin à 8h30 et on repart le lendemain à la même heure pour prendre son petit déjeuner, tous ensemble à la Belle Ferronnière. Ça, c'était quand même extraordinaire. Et puis, Castel, bien entendu, chez Castel. Alors là, on se retrouve évidemment, ça c'est plutôt pour le soir et la nuit, bien entendu. Une petite anecdote, vous savez que Jean Castel avait une journaliste devant son restaurant, qui était une journaliste, une accordéoniste, qui jouait tous les jours, et il en avait assez d'entendre cet accordéoniste. Bon. Et un jour, il s'en va faire un grand voyage au bout du monde, comme s'il voulait s'éloigner de l'accordéoniste. Voilà, parti en Polynésie. Eh bien, à Tahiti, les reporters et les photographes de Match décide de lui faire un canular, ils vont payer à cette femme, à cet accordéoniste, un billet pour Tahiti, et quand il arrive, quand il descend de son avion en Polynésie, qui est là pour l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue, évidemment, vous l'aurez compris. Alors, l'axe même de la rédaction de Match, c'est la photographie, bien entendu. Pas de reportage sans photo, a dit Roger Théron. La photo doit parler d'elle-même. Ce qui oblige du reste les auteurs, à côté de ça, à aller apporter autre chose qu'une simple description de ce qui s'est passé. Avec, derrière ces photos, derrière ces reportages, un dénominateur commun qui est l'humain. Il faut que tout cela palpite. Il faut que tout cela soit, vous prenne littéralement au cœur. Ce sera l'image de marque de Paris Match, et ça n'a pas changé du reste. C'est la base même du magazine. Alors, je vous avais parlé de la une célèbre avec Maurice Herzog. Il y a eu évidemment celle du 23 juillet 1951. C'est la mort du maréchal Pétain. Enfin, ça, c'est le maréchal Pétain est mort le 23 juillet et le numéro, c'était le 4 août. Photo à son bureau avant la guerre avec son képi, ses gants blancs, sa canne, etc. Là, les ventes grimpent et elles ne cesseront plus de grimper jusqu'en 1957. 56, on peut dire que c'est la grande année du magazine avec un nombre de unes extraordinaires, de unes historiques. Celle qu'on appelle la petite fiancée du journal, c'est Brigitte Bardot à l'époque. On a l'impression quasiment qu'elle s'est installée à Paris Match. On pourrait presque dire que chaque numéro nous raconte la vie de Brigitte Bardot dans la semaine écoulée. Elle va faire un grand nombre de couvertures. Elle était d'ailleurs, au moment de sa première couverture en 1951, elle était encore relativement inconnue. Elle ne sera pas ingrate, hein, Brigitte Bardot, puisqu'au contraire, elle va accorder à Paris Match des exclusivités assez extraordinaires. N'oublions pas aussi le côté famille royale. Nous parlions l'autre 4 jours du magazine Point de Vue, il est évident qu'il y a eu un temps une vraie concurrence avec Match. Hein. Il y a eu la mort de George VI, le couronnement d'Elisabeth II, le mariage du prince régnier de Monaco avec Grace Kelly, etc. On s'intéressait aux personnalités politiques. Je pense au reportage chez le général de Gaulle à la Boisserie en 58, au moment du retour, hein, la crise de mai. Évidemment, en 77, un reportage célèbre de Bruno Bachelet qui avait suivi Georges Marchais dans ses vacances en Corse. Et puis, un grand nombre d'événements. Le barrage de Malpasset qui cède en 59, rappelez-vous. Hitchcock au Festival de Cannes en 64. La visite du pape Paul VI en Terre Sainte la même année, etc. etc. Et même en 1958, un photographe, un reporter arrive à s'introduire dans l'intimité du pape Pie XII qui est sur son lit de mort. On est en train, le monde entier se demande si le pape va mourir. Eh bien, l'exclusivité, la photo du pape en train de mourir, évidemment, c'est Paris Match qui l'aura. C'est Paris Match qui la vendra à la planète entière. Et qui est à l'origine de tout cela ? Un certain Beno Graziani. Il va nous en parler lui-même dans un instant. Bonjour messieurs, je suis vraiment très heureux de recevoir Olivier Royan, Beno Graziani et Nicolas de Rabaudy. Avec vous, nous avons encore une demi-heure pour évoquer les bons souvenirs de Paris Match.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Caméramen, photographe, c'est leur hache. Fissez vos zooms, vite rechargez vos flashs. Dans une vague de salive, regardez qui nous arrive. Les craquantes, celles qui font se déboutonner les yeux, celles qui font se déboussoler les pieux, celles qui éclatent comme des mines au milieu de mon magazine. Oh! Les craquantes, craquez-moi, croquez-moi.
La voix de Nougaro sur Europe 1 avec un extrait de son titre Les Craquantes. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du magazine Paris Match avec vos invités, le directeur de la rédaction de Paris Match, Olivier Royan, Nicolas de Rabaudy, chroniqueur gastronomique, ancien grand reporter à Paris Match, et puis ancien grand reporter, c'est Beno Graziani qui vous accompagne également cet après-midi. Un sujet qui fait énormément réagir nos auditeurs.
Oui, alors, et notamment sur un point, évidemment, et ça, je m'attendais à cette remarque, c'est Didier qui nous dit, pourvu que Franck Ferrand n'oublie pas de préciser qu'il fait pendant une heure la publicité d'un magazine qui appartient au même groupe média qu'Europe 1. Et alors il y en a d'autres. Hein. Vance nous dit Franck Ferrand osera-t-il préciser que Paris Match appartient au même groupe qu'Europe 1 ? Alors d'abord, je pense que ça n'est pas du tout un secret. Hein. Je pense qu'on sait que Match et Europe 1 sont c'est le groupe Lagardère. Et je ne vois pas en quoi. Je vois pas ce que ça enlève du tout à l'extraordinaire histoire de Paris Match. Au contraire, on est ravi qu'une radio qui a 60 ans cette année puisse rendre hommage à ce grand magazine qui en a maintenant 66, qui doit préparer d'ailleurs, j'imagine, Olivier Royan, le 70e anniversaire.
Oui, on est déjà là. Et ce qui est intéressant, ce que vous dites, Franck, c'est ce qui fait de l'histoire de Paris Match des choses assez fabuleuses, c'est justement ce respect du passé. On sait exactement d'où on vient, qui nous sommes, et on s'est nourri de tous ces exploits. Hein. C'est quand j'avais maintenant, je suis un enfant de Match, ça fait 30 ans que je suis arrivé à Match, j'ai du mal à l'imaginer, j'ai du mal à réaliser. Et en fait, je me rends compte à quel point le premier jour, j'ai vu dans le couloir de Match la photo de Jean-Pierre Pedrazzini. On s'est nourri des exploits. L'homme de Budapest, on s'est nourri des exploits et des légendes de nos aînés. J'ai connu Beno Graziani à travers ses exploits avant de le connaître lui-même. Et y a une sorte de culture tribale. C'est une tribu qui fonctionne où il y a des histoires orales. Les reportages, les récits de reportages nous ont fait rêver. Et il y avait un mélange de une sorte de mythologie avec ses héros, ses victimes, ses morts, hein, ses martyrs de Match qui sont encore dans notre esprit près de ce 60 ans après. Et c'est la force du journal. Cet ADN, c'est ce journal qui a finalement fondé tout sur l'événement et qui est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand ça allait mal, quand la France avait pas d'espoir et qui a inventé une sorte de journaliste grâce à cette première équipe d'aventuriers qui ont donné une sorte d'optimisme, on va dire. La politique nous assomme un peu. La guerre a été terrible, mais on va essayer de avoir confiance dans l'être humain. On va raconter la vie telle qu'elle est. C'est pas la vie. On va pas dire c'est merveilleux la vie. On va montrer la vie telle qu'elle est. Et ça, c'est un journalisme qui aujourd'hui est extrêmement vivant et qu'on a à cœur de défendre.
Alors ceux qui nous suivent par Internet, sur Internet, doivent avoir remarqué que c'est Céline qui m'a interrompu parce que j'étais complètement plongé dans les reportages de Beno Graziani, justement, c'est tout à fait inouï. Vous avez notamment photographié la famille Kennedy, j'allais dire sous toutes les coutures, il y a des photos extraordinaires. Vous êtes dans les festivals de Cannes où l'on voit Hitchcock et les autres, à Salzbourg avec Karajan, enfin on peut dire tous les grands mythes du XXe siècle sont là, au cœur même de vos reportage. Et alors, il faut que vous nous racontiez, Beno Graziani, cette affaire de la mort du pape Pie XII.
Alors écoutez, je dirigeais le bureau de match à Rome, pour ça, et un jour on sonne à ma porte, 7 heures du matin, je vais ouvrir et je tombe sur le docteur du pape, qui s'appelait Galeazzi Zizi.
On l'appelait le dottore partout.
Oui.
Hein.
Il m'a dit, vous êtes bien de match, etc. Vous êtes bien monsieur Graziani. J'ai dit, oui, entrez donc. Je connaissais son visage, évidemment. Il vient, il dit, écoutez, le pape est très mal, comme vous savez. Il n'était pas à Rome, il était à
Castel Gandolfo.
Il dit, j'ai la possibilité de le photographier, si vous voulez. Est-ce que ça vous intéresse? Évidemment, ça m'intéresse.
Demandez à un aveugle s'il veut la vue.
Même Pie XII, on a même pas pu prendre une photo de lui quand il se rasait, rien. J'ai dit, évidemment. Il dit, oui, mais ça va coûter 60 000 lire.
C'était beaucoup d'argent.
C'était pas mal, mais c'était pas énorme. J'ai dit, bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, donnez-moi deux appareils de photo, et je fais la photo, et je vous la porte demain. J'appelle à Paris Gaston Bonheur, qui était là. Il dit, mais c'est fou ton histoire, c'est fou, c'est vrai. J'ai dit, oui, envoie-moi deux photographes. Il m'a envoyé deux photographes qui sont venus dans la soirée. Il fallait une journée pour faire Paris-Rome en avion. Parce que l'avion s'arrêtait à Genève et à Milan. Il fallait une journée. Bon, le soir, Galeazzi revient en me disant, vous avez les appareils de photo? J'ai dit oui. Il y avait les deux photographes dont un s'appelait Valls. Entre
oui.
Là. Il lui explique, il dit, moi je suis incapable de faire tourner un film. Alors je peux faire deux photos, une avec chaque appareil. Alors on lui dit, bon, il prend les deux appareils, il revient le lendemain vers midi, il dit, voilà, j'ai pris les deux photos. Parce qu'on lui avait dessiné la salle où était le pape, où était la lumière sur les fenêtres, pour que la photo soit bonne.
Comment décidiez-vous d'aller ici plutôt que là? Alors là, en l'occurrence, vous étiez affecté à Rome. Mais
j'avais le bureau de Rome, j'ai 6 ans.
6 ans.
J'avais toutes les semaines... Fellini.
Oui, on voit une photo de Monty Clift, notamment à Cinecittà,
oui,
par exemple.
J'étais mon meilleur ami à Rome. J'avais toutes les starlettes italiennes, qu'on disait les starlettes latines, on disait ça, oui. Qui étaient là, qui venaient, qui avaient 18, 20 ans. Je leur faisais des photos pour Match. Elles sont toutes parues dans Match en étant starlettes. Et après, il y a eu Silvana Mangano, il y a eu toutes les...
Ça, c'est un des secrets des grandes exclusivités, Olivier Royan. C'est de prendre la vedette à ses débuts, parce qu'ensuite, elle reste fidèle et elle vous fait des fleurs.
Très important. On a un chapitre qui s'appelle leur première couve. Hein, on les reconnaît à peine. La première couverture de Gérard Depardieu.
C'était le cas de Brigitte Bardot, dont on parlait. Oui.
Brigitte Bardot. Ce que Beno explique, c'est cette culture de l'exploit. Hein, cette jeune génération qui arrive à Match dans les années 50, elle a envie, alors elle est sans diplôme, elle est sans passé, parfois sans contrat, mais alors ils ont une culture de l'exploit. Ils veulent être dans les coulisses. Demandons à Beno, par exemple, comment lui vit la crise des missiles. Il est dans la cuisine avec Kennedy, à la Maison Blanche. Je veux pas déformer tes propos. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là et tu vis la crise des missiles à l'intérieur de.
On est en 1962.
Peut-être avec Kennedy après.
Avec le président des États-Unis.
Oui. Dans la cuisine.
L'homme qui peut décider si oui ou non on va déclencher la Troisième Guerre mondiale.
Et il m'a dit, vous savez que demain on peut être en guerre avec les Russes. Il me l'a dit. Et j'ai transmis ce qu'il a dit.
C'est ce qui s'appelle l'extrême intimité, voilà, avec les grands.
Ce que Match va toujours rechercher, c'est d'aller au-delà des coulisses, d'aller dans l'intimité. Et quand on est journaliste, on va acquérir ses galons quand on arrive à décrocher ce scoop. Il s'agit d'être toujours en dehors, d'être de le faire le contre-champ, d'apporter quelque chose. Et là, on va réussir à attirer le regard du rédacteur en chef.
On comprend pourquoi l'ouvrage de Nicolas de Rabaudy s'appelle « Nos fabuleuses années Paris Match ». Car Paris Match, ça n'est pas seulement cette présence sur tous les événements, avec l'actualité la plus anonyme anonyme et en même temps la vie des grands de ce monde, on l'aura compris maintenant, c'est deux jambes en quelque sorte, mais Paris Match, c'est aussi, on l'a vu, on a commencé à l'entrevoir, c'est une équipe, c'est quasiment une famille. On y vient avec vous, Nicolas Drabaudy, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
C'est Paris Match qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités, le directeur de la rédaction de Paris Match, Olivier Royan, Benoît Gradiani, ancien grand reporter à Paris Match, et Nicolas Drabaudy, chroniqueur gastronomique, ancien reporter à Paris Match, auteur de nos fabuleuses années Paris Match aux éditions Scali.
Vous êtes arrivé à Paris Match, Nicolas Drabaudy, en 1963. Oui. On peut dire que c'est l'apogée du journal.
Alors voilà, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce que moi j'ai vécu l'ascension et la chute. Quand Daniel Fipaki va reprendre le journal.
À la fin, milieu-fin des années 70. Là,
c'est ça, 76-77, oui. Le journal qui est en faillite. Mm. Hein, c'est Madame Théron qui a fait la préface de mon livre qui dit ça. Le journal est en faillite, il vend moins que Jour de France, voyez. Mm. Donc là, c'est une catastrophe absolue. Et je me souviens même de Roger Mauche, directeur de la rédaction, engueulant la rédaction de Match, les reporters, parce que Jour de France avait fait le coiffeur Alexandre, le coiffeur, et pas Paris Match. Vous voyez, ça, c'est des souvenirs complètement. De quoi j'écris ce livre, vous voyez, des souvenirs complètement délirants. Hein, est-ce que Olivier Royan dit on n'a pas fait le coiffeur? Ah bon, on s'est planté.
On n'a rien contre les coiffeurs, au demeurant.
On n'a rien, mais je veux dire.
Je sais qu'ils sont très nombreux à nous écouter. On en profite pour les saluer, tiens.
Par rapport au journal qui sort la mort de De Gaulle.
Oui, bien entendu.
La mort de De Gaulle.
La mort de De Gaulle, etc. D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de la une de Match sur la mort du maréchal Pétain. Et je n'ai pas précisé que sur la une, il y a bien tous les attributs. Mais il n'y a plus Pétain lui-même. C'est comme si. Il avait, comme c'était parti. Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs toute la force de cette photo. Quelle était l'ambiance? Alors, j'ai parlé de la Belle Ferronnière, j'ai parlé de Castel, etc. Vous avez connu, vous, cette espèce
moi,
de...
Bien sûr. Moi, quand je rentre, j'ai 23 ans et donc je connais déjà Benoît comme Olivier. Parce que moi, je suis un lecteur de Paris Match. Ma famille, Paris Match, c'est le magazine des familles. Hein. C'est des familles françaises, du modeste employé jusqu'au PDG. Toute la France est couverte par la lecture de Paris Match. Toute la France est intéressée par ce qui se passe là-bas.
C'est pourquoi il y a un tellement grand succès. Il n'y a pas de cible ou de secteur. C'est très important
non,
de le
non,
souligner.
Non. Hein, c'est ouais. Pourquoi quand j'arrive, ils vendent 1 200 000 exemplaires, 1,3 million, et surtout pour la mort de Kennedy, grâce aux 3 textes que Benoît a fait dans 3 numéros différents, c'est la première fois que Paris Match vend grâce à des textes et non pas à des photos. Alors, parce qu'il avait raconté la vie des Kennedy.
Quand on écrit dans Match, c'est comme dans n'importe quel magazine, vous me direz, on n'est pas certain que le papier ne va pas rester au marbre, voilà. En fait. Ça, c'est, il faut que vous expliquiez ça aux auditeurs.
Alors, il y a un rebut, c'est-à-dire, en fait, la rédaction en chef, elle commande 2 fois plus de reportages voilà. qu'il n'est nécessaire. Oui. Donc, c'est à la fin, le directeur de la rédaction...
Chaque semaine, on peut faire 2 matchs.
Et oui.
Voilà. Donc, il y a des textes qui ne passent pas, des reportages qui ne passent pas. C'est d'une cruauté terrible pour le reporter. Et moi, j'ai raconté dans mon livre comment Rudolf Nureyev, une interview de Rudolf exclusive à Auritz, comment le rédacteur en chef de l'époque, qui s'en foutait complètement, n'a pas passé ce texte, vous voyez. Donc toute votre vie, ça vous reste comme une blessure. Alors qu'après, Théron me dit, mais dis donc, ton papier là, qu'est-ce qu'il est devenu? Théron était en vacances.
Ce qui est fascinant, Franck, c'est que ça n'a pas changé. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir risqué ma peau pour traverser Panama en guerre pendant l'invasion des Américains, d'arriver, dicter mon papier. Finalement, nous étions dans Panama City. J'appelle le même journal qui dit « Ah ben non, ça ne passe pas, on a les yeux braqués sur la Roumanie. » Et « Oublie ton papier. » Pareil, Daniel Filipacchi nous racontait récemment qu'il en avait assez. Il s'est retrouvé un jour en Corée. Envoyé en reportage et en Corée, il appelle le journal, il lui dit « Ah non, 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 ben rentre, ça ne sert à rien, on a les yeux sur autre chose. » C'est ce qui nous est arrivé hier, quand on a appris la catastrophe du crash de la 320 dans les Alpes, on a tout cassé le journal. On a fait comme on faisait dans les années 50, quand dans les années 60. Les lecteurs de Match attendent une réactivité. Tout pour l'événement, c'est vraiment ça qu'ils attendent de nous.
Évidemment, et c'était peut-être encore plus vrai dans les années 50 qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas le relais de toute cette télévision, même d'Internet, etc. On attendait la sortie de Match pour avoir les éléments, les
leaders,
photos.
Ils sont leaders, bien sûr. Ils ont toujours été leaders. Mais en plus, c'est un magazine de kiosque. Vous voyez,
oui, voilà.
Maintenant, le développement qu'on fait sur les abonnements
voilà.
est assez nouveau. Mm-hmm. À l'époque, c'est les kiosques. Hein, les kiosques, c'est-à-dire la vente au numéro.
On va acheter le numéro au
kiosque.
Sûr,
parce que la couverture est tellement vendeuse. Hein, elle résume toute l'actualité.
Qui l'a fait, la couverture? Qui la décide?
C'est le directeur de la rédaction avec l'entourage. Hein,
oui.
C'était le mardi après-midi. C'est Roger. Nous, on était les enfants de Roger Théron.
Oui.
Roger Théron, c'est l'inventeur du journal, du point de vue de l'orientation et du montage du journal. C'est-à-dire de l'alternance des beautés féminines, du charme, comme on dit, du charme, de la guerre, de la religion, de l'argent, C'est le mélange de ça.
Bref, on a envie de dire de l'humain,
formidable.
De l'humain, tout ça.
Non, c'est lui qui fait ça, Olivier.
Je pense qu'on reçoit parfois des visites un peu étonnées de journalistes étrangers qui disent « Mais comment le public français, comme le disait Nicolas, accepte ce mixte,
ce mélange,
le haut, le chaud, le froid. » Et Nicolas a raison de
avec
parler de Roger Théron, qui est aussi mon mentor,
général,
qui est l'homme qui m'a donné ma chance et qui m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, c'est un peu une vision cinématographique de l'actualité. C'est-à-dire, Roger a appris cette vision un peu à la fois de la dramaturgie du journal, avec les hauts, les bas, et puis cette capacité, cette acceptation, le droit de s'intéresser à tout. Ce qui est rarissime, on passe notre temps à nous mettre dans des boîtes. Il faut être spécialisé, de s'intéresser qu'à une chose. Or, avec Match, tout d'un coup, on est un homme, on a le droit de s'intéresser à la mode. On est un homme, on a le droit de s'intéresser à la gastronomie. On est un homme, et pareil pour les femmes. Vous êtes une femme, vous avez le droit de savoir ce qui se passe sur la guerre, dans les faits divers, etc. Et c'est formidable parce que c'est un journal qui, finalement, ils ont été formidables, cette génération-là. Pourquoi ? Ils ont trouvé ce truc, le seul état où l'être humain ne ment pas, c'est l'émotion. Et ils ont décidé de parler au cœur des hommes, au cœur des femmes, et en oubliant l'idéologie. Et ça, c'est une invention, finalement, on n'a jamais fait mieux, parce qu'il faut bien reconnaître, ils ont quand même tout inventé au début des années 50, même dans les années 30, et nous, d'une certaine manière, on porte le flambeau, mais l'ADN, il a été créé très tôt.
Une chose qu'on oublie parfois lorsqu'on feuillette un magazine, lorsqu'on le lit, c'est qu'évidemment derrière tous ces articles, derrière toutes ces photos, il y a des êtres humains. Et c'est extraordinaire pour des reporters et notamment pour de jeunes reporters d'être mis en présence de tous les mythes vivants. Vous êtes allé rencontrer, vous me racontiez l'autre jour...
Charlie Chaplin
chez lui quand même en Suisse.
Suisse en 1970, ça c'est l'étiquette Paris Match, la carte de visite qui vous permet d'entrer partout, comme Benoît entrait à la Maison Blanche.
Et alors vous, Benoît Gratiani,
c'est notre modèle, parce que lui, il faisait tout mieux que les autres.
Hein. Et vous êtes avec alors toutes les plus grandes stars, on les a là sous les yeux, hein. je pourrais feuilleter,
du chat aussi.
Le chat d'Iran, dont on va parler d'ailleurs le lundi de Pâques, et vous l'avez non seulement côtoyé, mais vous avez fait des reportages.
J'ai passé la nuit avec, je l'ai prévenu qu'il y avait un contre-coup d'État, il m'a dit mais qu'est-ce que je dois faire ? J'ai dit Majesté, vous louez un avion et vous m'emmenez avec vous.
On est en 59, là, c'est ça ? À la fin des années 50, là.
54.
54, oui, c'est ça.
53, oui.
Et donc,
on est parti. Oui, on a passé la nuit dans un avion vide qu'il avait loué. Et puis, ça a été la joie des
lecteurs.
Oui. Ça, c'est... Quand on l'a attendu à Téhéran, après l'avoir chassé une semaine avant.
Oui. Ah, oui, vous voulez dire quand il est revenu.
Et depuis,
oui.
Le chat, il ne m'a jamais refusé quoi que ce soit.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ces hautes personnalités, non seulement ne vous refusent pas une interview, mais mieux que cela, elles vous sollicitent parfois. Par exemple, c'est Jackie Kennedy elle-même qui vous invite à son mariage avec Onassis, c'est ça ?
Extraordinaire. Oui, absolument. Mais elle, je la connaissais avant son premier mariage. Et elle est partie en vacances pendant un mois, elle m'a emmené avec elle.
Et toutes les têtes couronnées, il faut le dire.
Oui, c'était le meilleur carnet d'adresses qu'il avait. Le meilleur carnet d'adresses, c'est lui. Et je me souviens quand il fait le reportage de l'Opéra du Cœur au Cap par le professeur Barnard. Donc il part le vendredi, le mardi soir pour le Cap et il revient 24 heures après. Il avait les photos, le reportage et il fait la mise en page du sujet. Il n'était jamais allé au Cap. Et c'est là qu'il me dit, quand tu vas dans une ville que tu ne connais pas, tu prends un taxi, tu ne te quittes pas. Parce qu'en plus, il fallait prendre les photos. Oui, il fallait ramener les photos.
C'est ça, bien sûr.
Donc lui, il était notre modèle, parce qu'il faisait tout mieux que les autres. Et surtout, archétype du grand reporter, c'est-à-dire qu'il fait tous les grands sujets. Tous les beaux sujets, c'est lui qui les fait.
Bah oui, je vais arriver le premier, j'étais là en 49.
Et je crois que Franck, on peut dire aujourd'hui, c'est on va à la définition de notre métier, du journalisme. Le journalisme, c'est d'aller voir, hein, c'est d'aller voir la vie telle qu'elle est, c'est d'aller sur le terrain.
Et d'en rendre compte.
Et c'est vrai qu'on a toujours dit à Match que le reporter, le photographe, ce sont les yeux, ce sont nos yeux sur le lecteur. L'envoyé spécial a toujours raison. Et je pense que cette culture du terrain est très importante à l'époque où le commentaire joue une telle importance, où on n'entend que des commentaires,
oui,
où les gens parlent de choses.
Maintenant, oui.
Et on est beaucoup dans l'éditorialisation. Et cette culture du terrain est vraiment fondamentale. Et c'est ça, la force du journal encore aujourd'hui, c'est d'aller sur le terrain, d'avoir les moyens d'aller sur le terrain pour voir les choses.
Eh bien, ce sera le mot de conclusion, si je puis dire. Merci infiniment, Benoît Gratiani, d'avoir accepté notre invitation. Merci messieurs de nous avoir parlé de Match. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Nicolas de Raboudi, Nos fabuleuses années Paris Match, c'est aux éditions Scali. On trouve aussi ce livre de Jean Durieux et Patrick Mahé, Les dossiers secrets de Paris Match, aux éditions Robert Laffont.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Philippe sur la façon d'énoncer les dates.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, cet après-midi à la question de Philippe. Il nous l'a envoyé via votre compte Twitter. Il vous demande d'expliquer pourquoi certains préfèrent énoncer les dates en disant 1800 et non 1800.
Voilà, c'est mon cas. Je dis souvent en 1730, etc. Alors, en fait, c'est une question d'usage. Il n'y a pas de règle. L'Académie française accepte les deux usages. Elle précise simplement qu'il vaut mieux mettre 1700 lorsque vous écrivez et 1700 lorsque vous parlez, tout simplement. Donc, à l'oral, on a plutôt tendance à dire 1700. Moi, j'ai pris l'habitude, mais ça ne regarde que moi, et c'est une tradition qu'on rencontre beaucoup à l'université, ça, de dire 1700 jusqu'en 1789-92, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution, et ensuite de dire 1830-1900, etc. Bon, ce sont des habitudes, ce sont des usages, et en tout cas, tout cela est tout à fait correct. Je précise pour ce qui est des dates qu'il faut défendre les chiffres romains. Je vous dis ça parce que on écrit les dates, les millésimes, en chiffres arabes, ça bien entendu, mais très souvent, on voit par exemple de plus en plus, je voyais ça encore hier, au 15e siècle, écrit 15e en chiffres arabes. Alors ça, moi, ça me hérisse le poil, c'est une rupture de l'harmonie écrite, si vous voulez. Tout ce qui s'intègre dans le propos doit être écrit en chiffres romains, notamment, normalement, c'est-à-dire les noms des souverains, les numéros d'arrondissement, les actes de théâtre, etc., même les éditions d'une manifestation. Si vous dites que c'est le 15e salon du livre, normalement, il faut l'écrire en chiffres romains. Vous allez me dire, je suis peut-être un des derniers à m'accrocher à ce genre de vestiges, mais moi, ça me fait plaisir, que voulez-vous ?